Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes sous le regard du Seigneur. J'espère que nous sommes conscients que nous sommes sous le regard du Seigneur. Je voudrais partager avec vous ce matin un sujet, à savoir la tiédeur. Pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui sont si tièdes? Pourquoi? On va lire quelques versets, vous savez, dans l'évangile de Luc, Luc 21, Matthieu 24, des chapitres que vous devriez connaître par cœur. Quelqu'un me disait derrière, oh, je ne savais pas comment expliquer à quelqu'un où c'est écrit qu'il y aura de grands tremblements de terre. Est-ce que c'est important de le savoir? Ah oui. Matthieu 24, Luc 21, ce sont ces deux chapitres, c'est facile à recevoir. C'est les actualités en boucle, en permanence. C'est pas vrai? Dans Luc 21, il est parlé de ce qui est en train de se passer. Et je peux vous dire, comme a dit Jésus, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Si vous êtes choqué par ce qui se passe au Japon, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas tout vu. Nous allons certainement revenir sur ce chapitre, mais nous allons voir un verset qui nous intéresse pour introduire ce culte. Luc 21, verset 19. Jésus s'adresse donc aux croyants et il dit ceci. « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Vous pouvez garder la page, on y reviendra tout à l'heure. Nous allons faire une autre lecture dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Le Seigneur s'adresse à une église. Il connaît tout de cette église comme il connaît tout de la nôtre. Et le Seigneur Jésus... Donc s'adresse, il aime cette église, mais cette église doit se corriger. Certains l'ont fait, l'ont-ils fait, on n'en sait rien d'ailleurs. On ne sait pas. L'ont-ils fait, ne l'ont-ils pas fait? Ces croyants sont morts bien sûr depuis très 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 longtemps, mais ils avaient entendu le conseil du Seigneur. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, c'est Jésus qui parle, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Dans l'église de Laodicée, il y avait des chrétiens qui étaient tièdes. Dans l'église de Sainte-Agne, y a-t-il des chrétiens tièdes? Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Il n'y a que le Seigneur qui sait exactement dans quel état spirituel nous sommes, chacun. Le Seigneur connaît tout. Il commence dans ce verset, au verset 15, « Je connais tes œuvres. » Il connaît les œuvres. Est-ce que c'est bien qu'une église pratique des œuvres? Est-ce que c'est bien? Eh oui. Les œuvres sont importantes. La foi sans les œuvres... elle est morte. Un chrétien qui ne pratique pas d'œuvre est un chrétien qui est véritablement dans une situation très 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 ambiguë. Pourquoi? Parce que les œuvres sont la conséquence de la communion avec Dieu. Parce que je suis en communion avec Dieu, je suis amené à pratiquer les choses que Dieu m'appelle à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Tous, c'est obligé. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et vous connaissez la parabole du jugement des nations, où Jésus dira, venez, et à d'autres, retirez-vous, parce que justement, certains font des œuvres. Alors, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Bien sûr que non. Toute la Bible nous enseigne que c'est par grâce qu'on est sauvé. Mais la Bible nous enseigne aussi que les œuvres sont la conséquence d'une véritable communion avec Dieu. Et que les œuvres nous suivent. C'est écrit dans l'Apocalypse. Que lorsqu'on se présentera devant Dieu, nos œuvres nous suivront. Alors bien sûr, il est hors de question de mettre en exergue les œuvres au détriment du reste, mais il n'empêche que qu'un chrétien doit faire des œuvres. Mais ce n'est pas parce qu'il fait des œuvres qu'il est aussi en communion avec Dieu. La preuve, c'est que cette église de Laodicée pratiquait des œuvres. Je connais tes œuvres. Le Seigneur, il sait ce que l'on fait. Tout, absolument tout. Il le sait et cela doit nous encourager. Ce que l'on fait, on doit le faire de tout son cœur. J'espère que l'œuvre de Balma va se présenter, va prospérer. Est-ce que vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu, ça, que Balma se prospère? Mais c'est évident. Dieu veut que les hommes soient sauvés, Dieu veut que des œuvres ouvrent, etc. Ça ne peut pas ne pas être la volonté de Dieu que des églises ouvrent dans nos grandes agglomérations en France. Ce n'est pas possible autrement. Mais voilà, nous ne devons pas nous focaliser sur les œuvres et dire, bon, comme on fait des œuvres, comme on donne de l'argent, comme on soutient des églises, comme on aide tel pays, comme on fait ci, comme on fait ça, comme on donne, ça va bien. La question est beaucoup plus sérieuse. Continuons bien sûr à faire ce qu'il y a dans le cœur. Dans le conseil d'inspiration, on a souvent à cœur certaines choses. Demain, je vais par exemple présenter un projet d'évangélisation à Rodez. À Rodez, ils veulent faire de l'évangélisation. C'est le plus grand département au niveau de la superficie de France, au niveau de la superficie, pas du nombre d'habitants. Et ils ont très très peu de moyens. Et l'autre jour, je voyais le pasteur à la pastorale qui disait, voilà, on aimerait faire de l'évangélisation. Je vous donne un exemple pour savoir comment on travaille. Je vais proposer demain soir, si le conseil d'administration veut bien donner une certaine somme d'argent, notre argent, pour l'évangélisation de certaines villes de l'Aveyron. On va en réfléchir, on va parler, et normalement, ça devrait se faire. C'est pour vous expliquer comment on fonctionne. Et ça, c'est bien. Et ça plaît à Dieu. Parce que Dieu veut que nous évangélisions les villes, les villages, etc. Mais les œuvres, c'est bien. Que le Seigneur vous accorde et nous accorde à chacun de faire ce qu'il nous demande. C'est la chose la plus importante quand on va passer devant Dieu après le salut. Est-ce que véritablement je suis en train de faire ce que Dieu me demande au niveau des œuvres? Mais, j'y reviens, les œuvres peuvent être faites sans avoir de communion avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur intervient dans cette église qui certainement devait se réjouir de faire beaucoup de choses pour Dieu, et cette église vivait dans l'illusion. C'est une illusion de croire que parce qu'on fait des œuvres, on est en communion avec Dieu. D'ailleurs, je pense souvent à l'Assemblée Générale. Vous savez, l'Assemblée Générale, on fait le bilan de l'année, des finances, on présente un prévisionnel et tout. Et bien sûr qu'on est tout le temps béni, satisfait, mais je me dis, mais est-ce que le prévisionnel du Seigneur, on le connaît? Est-ce qu'on le connaît, le prévisionnel du Seigneur? Est-ce que l'on sait vraiment ce que Dieu veut que nous fassions? Bien sûr que nous, on est obligés de le faire. C'est pour être en conformité à la loi, on est obligés. On doit faire certaines choses. Mais le prévisionnel du Seigneur, est-ce qu'on le voterait tous? Parce que là, vous votez tous à l'unanimité le prévisionnel de l'Église. Bon, c'est normal. Mais si le Seigneur, lui, le Seigneur Jésus, présentait son programme, est-ce que nous le voterions? C'est une question, et je ne suis pas sûr que tous les croyants aujourd'hui voteraient le programme que le Seigneur Jésus lui-même nous présenterait. Je vous étonne peut-être. Parce que le programme du Seigneur, c'est plus que des chiffres, c'est plus que des sous. Le programme du Seigneur, c'est un cœur. Un cœur qui est soucieux de comprendre, que celui qui a des oreilles entende. L'église de Laodicée, on peut la critiquer. L'église de Toulouse, est-ce que le Seigneur peut lui parler? Est-ce que le Seigneur ce matin peut me parler? Est-ce qu'il peut vous parler? Est-ce que vous dites, Seigneur, parle? Parle, Seigneur, moi. Parle-moi. Il est urgent que je sache où j'en suis. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, qui n'êtes pas encore sauvés, il est urgent que Dieu vous parle. Vous avez vu, comme moi, certainement les informations, et vous avez vu qu'avant-hier, il y a une ville de 17 500 habitants qui a perdu 10 000 habitants. Vous l'avez entendu, l'info? Ils se sont réveillés le matin. Qui aurait pu penser que 6 heures après ou 8 heures après, 10 000 habitants de la ville sur 17 000 seraient morts? La colère finira par nous atteindre. C'est écrit quelque part. Et ceux qui ne sont pas à l'abri de la colère seront atteints par la colère. Et la Bible dit que celui qui n'a pas Jésus-Christ, il sera atteint par la colère. C'est pour cela que c'est une affaire sérieuse, non seulement d'amener les pécheurs au salut, mais d'amener les chrétiens à avoir une véritable communion avec Dieu. Parce que si les pécheurs sont perdus, les chrétiens tièdes, vont connaître un rejet de la part du Seigneur. Et ça, c'est de mon devoir et de ma responsabilité de veiller sur votre âme pour que vous puissiez dire, mais oui, suis-je tiède ou suis-je bouillant? C'est une question à laquelle il faudrait avoir répondu dans 30 ou 40 minutes. Chacun pour soi. C'est devant le Seigneur, vous devez pouvoir répondre de la manière la plus honnête, la plus objective qui soit, suis-je tiède? Suis-je froid? Quoique si vous êtes froid, c'est plus facile que d'être tiède. C'est pas moi qui l'enseigne. Parce que quelqu'un qui est froid, qui a plus de communion avec Dieu, qui est retourné dans le monde, qui est dans le péché, normalement, il le sait qu'il va pas bien avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? J'espère. Quelqu'un chrétien qui a plus de communion avec Dieu, qui est comme dans le monde, qui est dans le monde, il le sait qu'il est perdu. Mais le tiède, il le sait pas. C'est pour ça que Jésus dit, mais puisses-tu être froid ou bouillant? Et cette tiédeur, il faut que nous la prenions à bras le corps. Dis, mais Seigneur, quels sont les conseils que tu adresses? Il y en a 6 conseils en vérité. 6 dans ce texte pour retrouver cette ferveur d'esprit, cette vie bouillante, car dans ce monde qui est en train de se détruire, vous avez vu le monde, comment il est. Vous avez vu ce qui se passe et vous soupçonnez ce qui va se passer. Vous le savez que le monde est réservé pour le feu. Nous le savons, c'est écrit, c'est prophétisé. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à relativiser comme vous voudrez. Il y a à être sérieux, à dire Seigneur, tout ça s'accélère. La révolution arabe, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce que va donner la révolution arabe par rapport à Israël? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever là et dire « Moi, je sais ce qui va se passer ?» Personne. Bien sûr qu'avec les prophéties, on peut soupçonner certaines choses. Mais Dieu peut nous prendre à contre-pied, comme il est capable de le faire. Et ce qu'il nous demande, c'est justement d'être prêt, de persévérer pour que nos âmes soient sauvées. Alors bien sûr que nous sommes habiles, dans le bon sens du mot, pour amener les croyants à dire « Mais c'est vrai, que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. » Merci Seigneur. Il ne brise pas le roseau cassé. Et si vous étiez dans ce cas de figure, oh, ma flamme, elle est petite, ma vie, elle est plus brisée qu'autre chose, donc le Seigneur, il ne me rejette pas. C'est vrai. Mais est-ce qu'il faut se contenter de rester dans cet état spirituel pour être prêt à rencontrer Jésus? Je ne crois pas que non, je ne crois pas que oui. Il faut être sérieux. Ces choses, elles ont été écrites. Eh bien, pour qu'on puisse se dire, mais attends, mais où j'en suis vraiment? Est-ce que je suis dépassé? Comme certains chrétiens, dès qu'ils voient les informations, il faudrait mieux pas qu'ils ouvrent la télé. Ils sont paniqués, ils sont affolés, alors que Jésus a dit, mais quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Ne priez pas pour qu'il y ait plus de tremblement de terre. Je vous assure, vous prierez pour rien. Priez pour qu'avant, pour qu'après, les gens se tournent vers Dieu, crient à Dieu, reviennent à Dieu. Priez pour que les choses se fassent avec l'onction du Saint-Esprit. Mais ne priez pas pour qu'il n'y ait plus de tremblement de terre. Ça ne tient à rien. Est-ce qu'il y en aura des tremblements de terre? Est-ce qu'il y aura de grands tremblements de terre? Alors, bien sûr qu'on ne rit pas. Quand on voit les informations, on ne rit pas. Mais on pense aux prophéties. Et le Seigneur donne des conseils par rapport à ce qui est en train de se passer. Il dit, mais voilà, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre et que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Oui, dans l'assemblée, il doit y avoir des croyants qui sont tièdes, pour qui la vie spirituelle n'a pas beaucoup d'importance. Pour qui la communion avec Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être vous vous dites, moi je suis dans une assemblée, c'est une assemblée sérieuse, et c'est vrai. C'est une assemblée où on fait des œuvres, et c'est vrai. C'est une assemblée où il y a une véritable communion fraternelle, c'est vrai, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui fera que vous allez être prêts lorsque le Seigneur Jésus va revenir vous chercher. C'est une question individuelle. De deux dans un lit, un sera pris, et l'autre laissé. Dans un foyer, s'il n'y a que la femme qui est chrétienne, la femme sera enlevée, c'est tout. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Là aussi, vous voyez, quand il est dit dans les Corinthiens que le mari est sanctifié par la femme, vous voyez, c'est au niveau justement des relations physiques. Et il y a des hommes qui s'autorisent à dire, « Ah, mais moi, ma femme, elle est chrétienne. Si Jésus revient, je suis sauvé. » Parce que c'est drôle comme ils ont retenu ce verset. Parce que le mari est sanctifié par la femme. Et certains ont le toupet d'ajouter Alléluia. Mais voyez comment on est capable d'interpréter la parole de Dieu. Ça veut tout simplement dire que dans une relation physique, si une femme chrétienne a un mari qui ne l'est pas, elle n'est pas souillée à cause du péché de son mari. C'est ça que ça veut dire. Et nous devons justement lire la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux, parce que c'est comme ça qu'il y a de la confusion dans les églises et dans les chrétiens. Le Seigneur donne des conseils, on va vite les lire. Ce que je voudrais surtout, mes frères et sœurs, c'est que nous comprenions qu'avec Dieu, c'est l'un ou l'autre. Ou on est sérieux, ou on ne l'est pas. Ou on est léger, ou on est profond. Belshazzar savait très bien ce qui était arrivé du temps de son père. Il le savait. Et il le savait, et lui, monsieur, parce que c'était le roi, pensait à mettre pleine la vue aux autres. Et à un moment donné, ça suffit. Parce qu'il y a un moment donné où Dieu dit, stop. Est-ce que vous le savez ça? Au niveau individuel, avant-hier, Dieu, par rapport à cette situation, à un moment donné, Dieu dit stop. Ne mettez pas le diable dans tout, mes frères et sœurs. Ne diabolisez pas n'importe quoi. Ce sont les signes de la colère. Parce que je peux vous dire que s'il y en a bien un qui n'aimerait pas que les prophéties s'accomplissent, c'est bien le diable. Vous ne croyez pas? Alors, faisons très attention. Soyons sérieux. Les légers ne passeront pas. Dieu a dit à cet homme qui s'amusait avec les objets du temple qui avaient été volés. Vous savez, il ne faut pas rire avec les choses de Dieu. C'est pour ça que nous ne voyons pas la main de Dieu confirmer sa parole comme nous le voudrions. Parce que trop de chrétiens sont légers avec la parole. Et quand Belshazzar s'est amusé à boire dans les vases du temple qui avaient été volés, Dieu est intervenu. Comme Dieu interviendra, il sait quand il doit intervenir, il sait quand est-ce qu'il doit intervenir pour enlever l'Église, il sait quand est-ce qu'il doit intervenir pour juger le monde, il sait quand est-ce qu'il doit intervenir pour revenir à la fin de la bataille d'Armageddon, pour régner 1000 ans sur la terre. Le Seigneur, il sait quand intervenir dans votre vie. Il sait quand est-ce que votre cœur s'endurcira, si c'est la 30e fois, la 300e fois que vous entendez aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Écoutez. Si vous n'écoutez pas, vous endurcissez votre cœur. Et qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, vous connaîtrez, mais moi je vous le dis, vous connaîtrez les pleurs et les grincements des dents. Vous avez envie de connaître ça? Il y a quelqu'un ici qui a envie de connaître les pleurs et les grincements des dents, alors que les tièdes sont dans ce cursus-là. Ils sont sans s'en rendre compte, puisqu'ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Le tiède, ce qui caractérise vraiment le tiède, il ne le sait pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il flirte avec le péché, mais c'est pas grave, Dieu pardonne. C'est ça le problème. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui le font. Il y en a déjà, il y en a des chrétiens qui sont vulgaires. Alors, du coup, vous n'allez pas me faire du cinéma pour un petit juron de temps en temps. Quand même. Il faut être du siècle. Faut pas. Vous allez voir le siècle, vous allez y rester longtemps. Quelle honte, mes frères et sœurs. Quand vous avez des chrétiens qui s'autorisent à élever la voix pour vous faire la leçon, et vous dire, mais on n'est plus au Moyen-Âge. Oui, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais la parole de Dieu, elle est pour tous les âges. La parole de Dieu, elle n'était pas pour le Moyen-Âge. Comme quelqu'un un jour m'a dit, mais la parole de Dieu, c'est pour certaines catégories, voyez. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde, au siècle des siècles. Et elle ne passera pas, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Mes frères et sœurs, Belshazzar s'est entendu dire... Il n'a pas compris d'ailleurs. Vous voyez, pourtant, tout roi qu'il était, il n'a rien compris. Il y avait 4 ou 5 mots écrits sur le mur de la salle à manger. Pesé, tu as été trouvé pesé, ton règne, etc. Vous connaissez la suite, hein? Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quand un chrétien ne prend pas au sérieux les choses de Dieu, il est léger. Et la tiédeur, Dieu ne l'accepte pas. Alors mes frères et sœurs, on pourrait bien sûr l'expliquer. Et je vous assure que hier, quand je me suis préparé, j'avais ce fardeau dans mon cœur, bien sûr qu'on pense à nos frères et sœurs au Japon. Mais moi je pense à nos frères et sœurs en France, qui devraient trembler devant la parole du Seigneur. Le Seigneur, il est catégorique. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Est-ce qu'il a exagéré, le Seigneur? Est-ce que...
Dites-moi, est-ce que Jésus exagérait? Mais non.
Si, parce que tu es... On le relit, relisons-le. Quand même, verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Nous voyons des choses. Nous voyons des choses terribles se passer. Et il y a des gens, je vous assure, qui sont plus vexés par la carrosserie de la voiture qui a été rayée ce week-end que par le tremblement de terre au Japon. Quelqu'un, quand même, qui voit ces choses ne peut pas rester insensible. Et nous devrions véritablement utiliser nos heures de prière pour que malgré tout ce qui est en train de se passer, l'œuvre de Dieu se fasse. Pour que les rétrogrades reviennent. Dans notre ville de Toulouse, il y a des milliers de rétrogrades. Des gens qui ont pris le baptême et qui ont tout abandonné. Hier, je relisais Jérémie, Lamentation de Jérémie, il faut le lire et le méditer. Le premier chapitre des Lamentations de Jérémie. C'était Jérusalem qui a rétrogradé tout ce qui est arrivé à Jérusalem. Mais lisez Jérémie, chapitre 1er. Et vous verrez combien le malheur peut atteindre le peuple de Dieu lorsque on ne veille plus. Et la tiédeur, elle est là. Je lisais également le psaume 42. Arnaud, il faisait allusion ce matin dans sa louange, dans sa prière, quand il dit « Mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu? Et où est Dieu? Pourquoi m'oublies-tu ?» Vous voyez, quand on commence à dire « Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et pourquoi il m'oublie ?» C'est les premiers symptômes de la tiédeur. Lorsqu'on commence, vous connaissez le psaume 42 hein? Pourquoi m'oublies-tu? Quand les gens disent « Mais où est Dieu ?» Vous savez, on va l'entendre encore cette semaine, ça. Où est Dieu? Ça vous perturbe à vous? Moi, je vous dis que non. Ça devrait nous pousser à chercher sa face. Ça devrait nous pousser à prier, à aimer la réunion de prière, à aimer la maison de Dieu, afin que véritablement toute la volonté de Dieu soit faite dans notre Église. Un chrétien tiède, il l'est devenu à cause de sa légèreté. Le Seigneur lui parle, il ne veut pas. Vous vous rappelez, mais combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Combien de fois, il a dit le Seigneur, en pleurant devant Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et pourquoi les gens deviennent tièdes? Eh bien parce que quand Dieu leur parle, ils n'en veulent pas. Ils sont d'accord, ça c'est clair, c'est la Bible. Ils vont pas avoir le ridicule d'aller jusque-là. Dire c'est pas bien, c'est pas Bible. Si c'est dans la Bible, on le sait. Mais mes frères, il y a des conseils. On va terminer avec ces quelques conseils. Je voudrais qu'on les relise. Et que vous puissiez répondre à chacune des questions que je vais vous poser. Pour savoir comment redevenir bouillant. Et pour savoir pourquoi vous êtes devenu tiède peut-être, certains. Donc, Dieu conseille, c'est des conseils. Nous, on aurait pu s'attendre que le Seigneur donne des ordres. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu donner des ordres? Est-ce que la dernière lettre qui est écrite à l'Église, dans la Bible, Dieu n'aurait pas pu donner des ordres? Et répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu, c'est la dernière lettre à laquelle Dieu écrit dans la Bible, à la dernière Église? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu dire « Je vous ordonne » Mais parce que de toute façon, si on le fait... Pour le faire, ça ne sert à rien. Hein? Si on disait aux gens, bon, maintenant, il faut tous louer le Seigneur, c'est un ordre. Allez, Sophie, vous commencez. C'est un ordre. Allez, Jenson, c'est un ordre. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? C'est rien. On fait les choses par force, par obligation. Non, je crois que dans le royaume de Dieu, on fait les choses de tout son cœur. Par amour. Vous êtes d'accord? C'est pour ça. Que même si c'est archi sévère, ça se résume au fait que Dieu nous donne des conseils. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Voilà la richesse, la véritable richesse. C'est du temps de qualité que l'on passe dans la présence de Dieu pour que notre cœur se remette à fondre. Vous voulez être riche pour le Seigneur?
Il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, alors ne répondez pas, c'est vrai, c'est pas grave, parce que je sais que c'est sérieux, c'est pas la peine de répondre à votre voix, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment être riche pour le Seigneur? Vous avez vu? C'est pas compliqué. de l'or éprouvé par le feu. Alors là, il faut du temps. Est-ce que vous êtes prêts? C'est des questions qui sont simples et pourtant d'une profondeur incroyable. C'est ça le problème, c'est que la profondeur, souvent, elle est dans la simplicité avec Dieu. Quand il dit « recevez mes instructions et vous trouverez le repos », il ne peut pas y avoir plus simple. Et pourtant, c'est comme ça qu'on est dans le repos. L'or, ils ne font pas en 30 secondes. L'or, pour arriver à ébullition, je ne sais pas combien il faut, l'or, ils font l'or, mais il doit falloir peut-être des heures, je ne sais rien, ça n'est pas bien sûr la vitesse de température. Mais est-ce que vous voulez être riche? Combien de gens sont capables de passer des heures, quand je vois les jeunes qui sont capables de jouer sur des PlayStation, des heures, et qui n'ont pas 10 minutes. Un jeune me disait cette semaine, non, je ne lis plus ma Bible. Qu'est-ce qui va venir? Il va rétrograder. Vous pariez? C'est comme ça. Des heures, oui, parce qu'on est attiré par ce qu'on aime. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un qui est riche, vous le savez, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui dit « Oui, moi je veux que mon cœur, tout à nous faux, soit touché. » Comme à la Pentecôte, ils eurent le cœur touché. « Je veux que mon cœur fonde tout à nouveau. » Parce que ce n'est pas en 30 secondes que, ou 3 minutes, « Seigneur, montre-moi, tu vois, je n'ai pas beaucoup de temps, montre-moi. » Écoutez, le conseil pour être riche avec Dieu, il n'est pas compliqué. C'est du temps de qualité. Et là, je lis quelques psaumes. Tiens, c'est pour moi ça. Et là, tout à coup, on le sait, vous le savez, si vous passez du temps devant Dieu, ah, ce verset, tout à coup, ça me touche. Et là, je reste dans la présence de Dieu et je dépose au Seigneur. Tiens, cette timidité-là qui me paralyse, qui m'empêche même de donner un évangile à un collègue de boulot. Seigneur, est-ce que dans un moment d'intimité avec Dieu, le Seigneur peut nous libérer de la timidité? Dites-moi. Mais bien sûr, vous croyez que le Seigneur n'est pas capable, dans un moment de communion, de vous accorder cette grâce, de l'or éprouvé par le feu. Les impuretés remontent et le divin bijoutier, il va enlever l'impureté. Et je suis délivré. Celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Pour être riche, c'est du temps de qualité. Est-ce que, mes frères et sœurs, nous avons envie de donner au Seigneur Jésus le temps qu'on peut lui donner? Ou est-ce que vous n'avez même plus un petit peu de temps, je dis un petit peu de temps dans cette façon de parler, à donner à Jésus? Voilà comment on retrouve cette vie de l'esprit, cette vie de richesse spirituelle. Je peux donner au Seigneur une heure? Est-ce que Jésus n'a pas reproché un jour à des chrétiens, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Est-ce que cette question n'est pas dans la Bible justement pour interpeller tous les chrétiens? Est-ce que le Seigneur viendrait lui-même physiquement dans l'assemblée là? Est-ce que vous croyez qu'il pourrait reproduire la question et dire aux églises en France, mais vous ne pouvez pas passer une heure avec moi? Est-ce que le Seigneur pourrait poser la question? Qui oserait lui dire, alors qu'il serait là physiquement, mais moi je n'ai pas le temps, qui oserait lui dire? Mais c'est pareil! C'est pareil, vous avez affaire à la parole de Dieu. Vous n'avez pas affaire à Jésus lui-même, mais vous avez affaire à la parole de Dieu. Et si Dieu m'inspire, s'il était là, mais ça serait pareil de toute façon. On serait peut-être touché la première fois, après on ferait comme ils ont fait. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et moi je crois qu'en une heure, réellement, une heure dans la journée, quand même, une heure. On peut redevenir riche avec le Seigneur. Vraiment, je le pense. On peut retrouver cette richesse. Qui peut dire à Dieu ce matin? Qui peut dire devant Dieu? Qui pourra lui dire surtout? Je n'ai pas une heure, Seigneur. Je n'ai pas le temps. Moi, ce n'est pas possible. Je suis patron, je suis ceci, je suis cela. Moi, je n'ai pas une heure. Dites-le lui. C'est votre affaire devant le Seigneur. Deuxième conseil, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà, ce qui amène beaucoup de tiédeur, c'est le manque de sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. La sanctification, elle est possible, je le crois, comme on en a partagé un peu mardi soir, à cause de la crainte. Parce que j'ai la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect des choses de Dieu, je me tiens. Je fais très attention. C'est quand même écrit que celui qui lit fasse attention. Je fais attention. Oh, ça, c'est pas bon pour mon âme. Ça, c'est pas bon pour ma maison. Oh, ces choses que regardent mes enfants. C'est pas bon. Il y a des parents, ils regardent jamais. Je sais pas si vous l'avez fait, mais il y a des parents qui ont mis la télé dans la chambre de leur gosse. Écoutez, franchement. D'ailleurs, je crois que c'est bon pour personne, la télé dans la chambre. Même pas pour nous, les adultes. Je crois que s'il y a bien un endroit qui doit être, justement, sans rien, sans bruit, c'est bien notre chambre. Et il y a des parents qui ne savent même pas ce que leurs enfants regardent à la télévision. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Vous savez, moi je pense souvent aux paroles de Jésus, bien sûr, heureusement. C'est 7 fois où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans. Cette parole qui ne se trouve que dans la Bible, dans la bouche du Seigneur Jésus. Mais ça s'adresse à des chrétiens qui n'auront pas veillé, qui n'auront pas compris que la sanctification c'était quelque chose de sérieux. Vous rappelez cet homme qui se retrouve dans le palais du Seigneur sans avoir revêtu l'habit de noces. Dans cette parabole, nous on la cite souvent cette parabole, mais on la cite toujours avec les gens qui s'excusent. Ils s'excusent parce qu'il fallait qu'ils s'occupent de leur champ, l'autre de leurs chevaux, l'autre de son trafic, etc. Ils s'excusèrent toutes. Mais en vérité, la conclusion de cette parabole, c'est qu'il y en a quand même un qui a accepté l'invitation, enfin parmi tous ceux qui ont accepté l'invitation, et qui se retrouve dans la salle des noces sans avoir revêtu l'habit de noces. Et on lui dit, mais comment ça se fait que tu es là? Ne vous inquiétez pas, elle n'enlève pas, il n'y en a pas qui vont être enlevés, et à qui Jésus va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors redescend, non, ne vous inquiétez pas. À l'enlèvement, c'est une parabole. C'est une parabole. Je souris parce que je pense à un rêve que j'ai fait sur l'enlèvement. Oh, il faut que je sorte de ce rêve-là. Et comment ça se fait que tu es là? Il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Vous savez ce qui est écrit à cet homme? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? C'est dans Matthieu 22. On le lit. C'est écrit, c'est sérieux, c'est Jésus qui parle, c'est pas de la poésie, c'est pas une blague. C'est ce qui va arriver, ce sont des prophéties. La parabole du festin des noces, c'est ce qui va arriver. Alors il y a tous ceux qui n'acceptent pas l'invitation. Souvent le matin, quand on chante comme ça, je pense à tous les voisins qui habitent juste à côté de l'église depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qui ne sont jamais rentrés, pourtant les invités. Je pense à tous ces gens qui s'excusent alors qu'ils avaient 10 pas à faire pour venir entendre, hein, pour être sauvés. 22, 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors le verset 14, tout le monde le connaît, on le cite par cœur, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais les élus, ce ne sont pas ceux qui acceptent l'invitation. Les élus, ce sont ceux qui acceptent l'invitation et les conditions. Et la condition, c'est pas dire merci Seigneur, tu m'invites, tu vois, je suis là ce matin, merci Seigneur, j'ai accepté l'invitation. Mais qu'est-ce que vous faites de la sainteté? Qu'est-ce que vous faites de la sanctification? Cet homme représente les chrétiens. Ils ont accepté l'invitation, ils ont pris le baptême même. Mais ils n'ont pas compris l'importance de marcher tous les jours dans la sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite, pas le dimanche matin, de 9h30 à 11h30. Soyez saints dans toute votre conduite. Oui, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de gens qui acceptent l'invitation. Il y a beaucoup de gens qui prennent le baptême. Mais il y en a peu qui acceptent les conditions. Oui, je veux, Seigneur, être vêtu de fin lin. Je veux être revêtu de ta sainteté. Est-ce que c'est important? Seigneur, je veux me revêtir. Je veux acheter. Il y a un effort. Quand il dit acheter, ne sortez pas le chéquier, bien sûr. mais ça indique qu'il y a un effort à faire. Je veux me sanctifier. Quand Jésus va revenir, je veux être prêt. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui vont connaître les pleurs et les grincements dedans. C'est ce qui va arriver. Pour beaucoup, c'est écrit, beaucoup, dans le dernier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, il dit « Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Parce qu'ils n'ont pas été sérieux, ils ont été légers. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mes frères et sœurs, est-ce que l'on voit vraiment? On voit, bien sûr, on voit par les infos ce qui se passe. On voit qu'il y a des soulèvements. Est-ce qu'il y a des soulèvements dans le monde? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des bruits de guerre dans le monde? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans le monde? On voit ces choses. Mais est-ce que l'on voit où nous, on en est avec Dieu? Est-ce que je vois où j'en suis? Est-ce que ce matin, je peux dire, mais oui, je sais. Je sais, je suis pasteur de l'église, je fais ci, je fais là, mais ça ne veut rien dire ça. Est-ce que je vois vraiment ce que Dieu veut me montrer? Quand Paul est en prison, il ne prie pas pour sortir de prison, il dit, mais il prie pour que Dieu illumine les yeux des chrétiens. Seigneur, mais illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. Est-ce que votre cœur est rempli d'espérance? Un chrétien qui voit, il est plein d'espérance. Il n'a pas peur du lendemain. Vous le croyez? Un chrétien qui voit les choses, il voit que Dieu règne. Quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, car votre délivrance approche. Y voir l'état de l'Église. Il n'y a que le Seigneur qui voit quel est l'état spirituel de l'Église. Même moi qui suis votre pasteur, je ne sais pas vraiment où vous en êtes. Je connais pas mal d'entre vous, mais il y a certaines personnes, peut-être qu'elles ont une façade et que derrière, elles vivent dans le péché, j'en sais rien, puis ça ne me regarde pas. Quand la Bible nous demande de prendre le vin, qu'est-ce qu'elle dit? Que chacun s'éprouve soi-même. Bien sûr, si vous voulez faire le point avec moi, avec un ancien, avec des pasteurs, des anciens, etc., faites-le. Ça arrive, et heureusement que ça arrive, des gens disent, voilà, je veux faire le point. Qu'est-ce que vous pensez? Je fais ça, est-ce que c'est bien? Je fais du sport de combat, est-ce que c'est bien? Moi, je pense, par exemple, que c'est pas bien. Tous les jeunes qui faisaient du taekwondo, que j'ai connus, qui se sont convertis, qui n'ont pas voulu arrêter les sports de combat, ils ont tous rétrogradé. Après, il dit, mais non, moi, je continue. Mais continue. Est-ce qu'on a le droit, nous, d'empêcher les gens? Mais non. On conseille aussi. Les gens, faites le point. Je suis là pour ça. Vous pouvez m'appeler. Vous devez, mais est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Peut-être que vous savez pas trop si vous êtes sauvé. Il y a des gens, ils font tous les ans le check-up pour leur corps. C'est pas vrai? La visite médicale, annuelle. Mais avec le Seigneur, le scanner de l'âme, ça, pas la peine. Le Seigneur est bon, on s'en sortira toujours. Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que ça fait partie de vos prières? Je vous pose la question. Est-ce que ça vous arrive, Seigneur, mais ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je puisse voir. Que je puisse comprendre, que je puisse saisir. Quand je lis ta parole, mais ouvre mes yeux. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas baptisés quand même. Est-ce que vous pensez à votre éternité? Quand même, tous les dimanches, vous êtes là. Est-ce que vous pensez au salut de votre âme? Est-ce que vous y pensez? Ce n'est pas le baptême qui somme, oui. Mais l'obéissance est quand même révélatrice. Bien sûr, si vous n'êtes pas repenti, si vous n'êtes pas converti, ne vous baptisez pas. Repentez-vous d'abord. Parce que la repentance, justement, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu ou pour re-rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que le cinquième conseil que Dieu adresse à cette église, c'est justement de se repentir. Et c'est vrai, Seigneur, j'ai abandonné ci, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné l'évangélisation, j'ai abandonné vous rappelez au début, des fois on invitait des gens que pour leur parler du Seigneur à table. C'est pas vrai? C'est vous, c'est pas vrai? Est-ce que ça vous arrivait pas? On invitait des voisins, on invitait des amis, que quoi, pour le repas ou pour leur parler du Seigneur? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce qu'on peut le revivre, ça? Peut-être qu'on ne pourra pas, peut-être que ça ne se présentera pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'inviter des voisins, on a fait des crêpes, on a fait du cidre. On n'a pas pu. La troisième fois, on a pu. Ah, vous êtes pasteur ? Eh oui. Et on leur a offert un Nouveau Testament. On n'a pu faire que ça. Mais est-ce que ces fois, ce n'est pas ça que Dieu attend ? Le reste, est-ce que ça ne dépend pas de lui ? Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Dans l'église, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire dans l'assemblée où tu m'as placé ? Qu'est-ce que je fais dans ta maison, Seigneur ? Quel est le service ? Ouvre mes yeux, Seigneur. Le collier, ouvre mes yeux, Seigneur. Le quatrième conseil, et donc du zèle, du zèle. Le zèle, Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi du zèle, mais c'est comme les gens qui disent, mais Seigneur, règne, règne en moi. Ça veut, on le chante. Mais en vérité, ça ne veut rien dire. C'est pas vrai ? Pour que Dieu règne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut obéir. Quand vous obéissez à Dieu, Dieu règne. C'est comme les chrétiens, Seigneur, augmente ma foi, et qu'ils ne lisent jamais la Bible. Ça tient pas debout. Avoir du zèle, ce n'est pas Dieu qui va vous le faire à votre place. Seigneur, je veux être zélé. Est-ce qu'on peut choisir d'avoir du zèle ? C'est pas un choix, le zèle, puisque Dieu dit, ayez du zèle. Donc, je vais avoir du zèle. Je vais être zélé. Je vais m'appliquer. Je vais avoir du zèle pour la prière. Parce que je pense à ce verset de Jésus qui dit, cette parole de Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Il est passionné, le Seigneur. Et il veut que l'affaire marche. Bien sûr que lui, il est parfait, vous allez me dire. Mais il a quand même choisi. Il a quand même choisi d'obéir. Et c'est un choix d'avoir du zèle, de dire, je veux du zèle pour les âmes perdues. Je veux avoir du zèle pour les rétrogrades. Je veux avoir du zèle pour la mission. Je veux avoir du zèle pour le service que je fais dans l'église. C'est peut-être que le ménage, mais je veux le faire avec ferveur. Et même si Dieu permette qu'un jour, je me retrouve seul pour le ménage. Ils ne sont pas venus, franchement. Ils ne sont pas fidèles, ces chrétiens. Qui sait si Dieu ne le permet pas ? Vous qui dites au Seigneur, Seigneur, apprends-moi la douceur. Apprends-moi la patience. Vous allez voir, Dieu va vous mettre dans des situations. Alors Seigneur, je suis tout seul, mais je veux le faire de tout mon cœur. Ce n'est pas une raison pour dire aux autres, pas grave, je crois qu'il faut quand même de l'ordre. Mais on peut demander du zèle. Le Seigneur le dit, ayez du zèle et non de la paresse. Le sixième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, il s'adresse à un paresseux. Il a enfoui le talent et le Seigneur lui dit, le serviteur paresseux, inutile, jetez-le dans les ténèbres. La paresse, vous allez me dire, il y a des péchés, nous, qu'on voit, je pense à la pornographie, ces trucs, c'est la folie, ces trucs. C'est archi grave. Mais la paresse, ça détruit l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas écrit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui... Moi, ces versets-là, au début, je me dis, c'est pas possible, c'est une image. Et non. Si dans un corps physique, il n'y avait que la main qui marchait, imaginez. Dimitri, regardez, il n'est pas là ce matin, il est à Mulhouse. Il n'a qu'une phalange qui marche. Qu'une phalange. Imaginez dans une église où il n'y en a que quelques-uns qui travaillent. C'est un corps paralysé. Et le Seigneur, il aime l'église. C'est pour ça qu'il dit, mais moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, le zèle, ça peut nous amener même à une vraie repentance. C'est-à-dire, mais, et donc du zèle, et repens-toi. Il faut du zèle, dire, prendre la décision de dire, bon, je me décide ce matin. Comme il y a des gens qui se déterminent pour le régime. Ils ont 20 kilos à perdre et tout d'un coup, il y a un déclic. Ils commencent et ils arrivent. Et c'est pareil pour Dieu, je veux du zèle, Seigneur. Je choisis d'avoir du zèle. Je rejette la paresse, je rejette cette espèce d'anesthésie là qui est sur moi. Non, je veux me réveiller, comme tu le demandes. Le dernier conseil, c'est si quelqu'un entend ma voix. Qu'est-ce que vous entendez ce matin ? Est-ce que vous entendez, vous reconnaissez la voix de Monsieur Go que vous connaissez depuis longtemps ? Ou est-ce que vous entendez au-delà de la voix une parole de Dieu qui parle à votre esprit ? Et qui est en train de vous dire, mais ta porte, elle est fermée. Ouvre-la. Pas Dieu qui va l'ouvrir. C'est à nous d'ouvrir. Cette heure
que tu veux avec moi, Seigneur, je vais la vivre. Cette sainteté que tu me proposes, je vais la développer. Cet exercice spirituel où tu vas illuminer mes yeux, je vais m'y appliquer. Je vais retrouver ce zèle. Oui, je vais me repentir. Et j'ouvrirai la porte. Et la vie de Dieu sera là. Et quand Jésus viendra, vous serez prêts. Quelle grâce pour tous ceux qui seront prêts à l'enlèvement. Vous êtes d'accord avec moi? Quel bonheur d'être enlevé. Vous rendez compte? Vous y pensez des fois à l'enlèvement? Quel moment. Quel moment béni de partir dans la gloire. Et quel affreux cauchemar. Pas pour les païens. Les païens, c'est grave, c'est clair. Ils sont déjà dans les ténèbres. Mais quel drame pour tous les chrétiens, pour les beaucoup dont Jésus parle, pour ceux qui seront nombreux, qui n'auront pas pris à cœur ces choses. Le culte doit se terminer. Allons-nous réfléchir à ces choses? Ou alors à nous attendre dimanche prochain, on aura une autre prédication au Seigneur. Bénis M. Gault, inspire-le, qu'il apporte un bon message, que ça nous fasse du bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire après le culte? Demain matin, ce soir, allons-nous prendre au sérieux ces conseils pour être prêts pour l'enlèvement? Vous voulez être prêts, mes frères et sœurs? On ferme les yeux quelques instants. Je vous pose cette question, est-ce que vous voulez être prêts? Vous qui n'avez pas pris la Sainte-Seine tout à l'heure, pourquoi? Pourquoi ne vous convertissez-vous pas? Pourquoi ne vous repentez-vous pas? Pourquoi ne lui donnez-vous pas votre cœur? Je m'adresse aux jeunes qui sont liés, et j'utilise le mot à bon escient, liés par l'ordinateur, liés par tous ces moyens technologiques. Vous qui êtes tièdes à cause de cela, les jeunes, le Seigneur vous dit, tu ne peux pas me donner une heure? Vous qui ne recevez pas certaines faveurs parce que vous ne mettez pas Dieu en premier. Vous ne voulez pas ce matin dire, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Oui, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais enfin, à quoi ça me sert de réentendre tous les 3 mois que Dieu ne brise pas le roseau cassé? C'est vrai que c'est bien. Mais si le roseau reste toujours cassé, qu'est-ce que ça va donner? Ah, Seigneur, tu me fais du bien, tu me rappelles que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Ah, merci. Mais à quoi ça sert? Si vous ne remettez pas le feu à ce lumignon, si vous ne remettez pas de l'huile dans le vase, si vous ne vous appliquez pas à avoir du zèle. Mes frères et sœurs, Jésus va revenir. Serez-vous prêts? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être riche pour le Seigneur? Prends du temps. Prends du temps. Prends du temps. Que ton cœur fonde tout à nouveau devant le feu de sa parole. Et que tu deviennes riche parce que son esprit t'envahira. Sa paix t'envahira. Son amour t'envahira. Sa consolation et tout ce dont vous aurez besoin vous envahira. Oui, Dieu veut que vous soyez riche. Riche spirituellement. Un frère le rappelait dans sa louange, le fruit de l'humilité, oui, c'est la richesse. Eh bien oui, parce que l'humilité, c'est ce tu m'as dit ça, Seigneur, eh bien je le fais. C'est ça l'humilité. Heureux les humbles, oui, les humbles, ils font ce que Dieu dit. Alors prions quelques instants. Priez dans votre cœur, dites-lui au Seigneur, aide-moi à avoir de nouveau du zèle, aide-moi, Seigneur, à ne plus être paresseux. Délivre-moi de ces idoles modernes. Délivre-moi de la télévision, délivre-moi d'Internet. Délivre-moi, Seigneur, de ce qui m'empêche d'avoir un cœur qui fond en ta présence. Délivre-moi. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous serons prêts quand il viendra. Nous serons prêts si nous veillons attentivement sur notre âme tous les jours de notre vie. C'est écrit. On va demander à Dieu sa faveur. Vraiment, on va demander à Dieu. Y a-t-il quelqu'un? Ne répondez pas, ne levez pas la main, que personne ne se lève ni rien. Mais je pose la question volontairement. Y a-t-il quelqu'un qui dit, mais Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Répondez-vous à vous-même, Seigneur. Humiliez-vous dans votre cœur, que personne n'élève la voix, mais dans votre cœur. Mais Seigneur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Que Dieu ouvre nos yeux. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, tu nous as tout annoncé à l'avance. Tout. Tu nous enseignes dans ta parole tout ce que nous avons besoin de savoir pour que l'on soit prêt le jour où tu viendras soit nous prendre parce que notre heure sera venue, soit parce que la dispensation de l'Église sera terminée. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, dans ce lieu, ne sont pas prêts. Tu aimes ces frères et sœurs, ces bien-aimés. Et je sais, Seigneur, que tant que la porte est ouverte, tu veux qu'ils se lèvent. Je sais, Seigneur, que lorsque la porte sera fermée, des multitudes seront dehors. Des multitudes de chrétiens, et ça dans l'assemblée, Seigneur, où tu nous as placés. Nous voudrions voir tous les frères et sœurs prêts à te rencontrer. Comme Noé était avec toute sa famille dans l'arche. Je te prie pour ceux qui ne se sont pas levés tout à l'heure pour la Sainte-Cène. Je te prie, Seigneur, de les bénir, de leur parler, de les interpeller. Et de nous donner à tous les chrétiens qui vont bien un zèle nouveau. Afin que ta maison à Toulouse, l'église de Toulouse, devienne ou redevienne une maison de prière où ton esprit va pouvoir bénir, délivrer et guérir. Nous te confions, Seigneur, les réunions qui à suivre. Nous te confions l'Église en Libye, en Tunisie, en Syrie, partout dans ces pays, en Égypte. Tu vois ces pays, tu vois tous ces soulèvements. Nous te confions l'Église au Japon. Redonne-nous, Seigneur, du zèle avec cette ferveur d'esprit pour que nous soyons ces ouvriers qui entendront entre bon et fidèle serviteur. Tu vois, Seigneur, les prochaines réunions, les réunions d'évangélisation, tu vois l'église de Balma, l'église des Minimes, l'église de Colomiers, l'église de Villemur, de Muret, de Toulouse-Ouest, tu vois toutes ces assemblées à Toulouse, Seigneur, interpelle les cœurs. Tu vois la réunion de mardi également, oh mon Dieu, inspire-moi, afin que les couples de l'église, que les couples soient des couples bénis. Que notre témoignage te glorifie. Comment, Seigneur, un tiède pourrait-il te glorifier? Quel témoignage, Seigneur, un tiède peut-il rendre? Comprends pourquoi tu ne n'en veux pas. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, tant que la porte est ouverte. Et vraiment, je te prie, Jésus, pour que dans les jours à venir, les heures à venir, ton esprit interpelle tous les cœurs. Tu vois tous ceux qui écouteront cette prédication sur Internet. Seigneur, s'il te plaît, tous ceux qui n'ont plus de vie d'église, tous ceux qui se retrouvent seuls dans leur maison, sans communion fraternelle, sans frères et sœurs avec qui t'invoquer, Seigneur, amène-les dans ta maison. Que ta volonté soit faite. C'est notre prière ce matin, Jésus. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Et délivre du malin. Tous ceux qui en sont esclaves ce matin. Merci Seigneur Jésus. Amen.